Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou sur internet campuslille.com. Le tout terrain à l'affiche de cette émission du dimanche 12 novembre avec Guy Pilarczyk. Guy, bonjour.
Bonjour la miche. Tout terrain comme le deuxième dimanche de chaque
voilà,
mois.
Voilà, c'est une habitude, voilà. Nous allons dérouler, je te propose de dérouler le menu de ce magazine et d'abord honneur à notre invité.
Oui. Alors, notre invitée, c'est une fille qui, depuis 30 ans, elle a fait du motocross. Elle a commencé à 6 ans à rouler sur les motos de son père, hein, qui avait récupéré ça à l'armée. Ensuite, elle a fait du trial. Elle est partie. Alors, son histoire, incroyable.
Un livre ?
Un livre. Elle a même eu... En cadeau à sa communion, devine ce que son père lui a payé.
Sa communion, je sais pas, écoute. Une moto, peut-être, je suppose, ouais.
Un mur de la mort.
Ah non, c'est pas vrai.
Ouais.
C'est vrai ?
Comme cadeau.
Donc alors, il faut préciser que c'est Corinne Brunel.
Oui, alors voilà. Corinne Brunel, elle est connue pendant...
Non, attends, je reviens un petit peu. C'est vrai, Corinne, un mur de la mort à ta communion ?
Eh oui, en cadeau. Bonjour à tous, d'ailleurs.
Bonjour, bonjour, Corinne.
Pour ma communion, en fait, je m'y attendais un petit peu quand même. Et il avait acheté un mur de la mort qui avait monté chez nous dans la cour. Et donc, il y avait un gars qui travaillait chez nous qui s'appelait donc Patrick Payel, le cascadeur de Merville. Et avec lui, on a appris à rouler dans ce
c'est
mur.
C'est pas vrai.
Si.
C'est
pas souvent, vrai. Parce que souvent, à la communion, on offre des montres.
Des chaînes. Non, moi, j'ai eu un mur de la mort.
Vous êtes précisé ce que c'est que le mur de la mort, hein, aux éditeurs qui éventuellement ne savent pas. Hein. C'est une boule métallique.
Ouais, un tonneau en bois. Hein,
donc, en bois.
Oui.
C'est en bois, oui. Et avec des...
Et avec la force centrifuge, on monte soit avec des voitures ou soit avec des buggies. Ou des motos.
Toi, c'était en moto ?
C'était avec des vieilles motos de l'armée. On a commencé avec des 175 Peugeot de l'armée française. Ouais.
Des Triomphe aussi.
On a eu des 175 Triomphe. Enfin, j'en ai tellement eu que des vieilles motos que je ne sais plus exactement.
Mais il faut avoir confiance à sa moto parce que le mur de la mort, forcément, la force centrifuge, on monte sur le mur. Hein. Et par exemple, si on a un problème, si la moto cale, il n'y a plus de force centrifuge et on tombe.
D'accord, donc là on essaie de descendre tout doucement, puis continuer sur le bas, puis aller à la roue libre, quoi, disons sinon. Hein. Bon. Mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de chutes avant d'arriver à grimper.
C'est impressionnant, quoi. Ouais. Voilà. Le mur de la mort pour la communion, Guy, incroyable. Voilà.
Merci papa, hein. Merci à mon père, bien sûr.
Voilà, on continue de dérouler le menu du magazine. Nous allons avoir Xavier Audouard, directeur sportif du Supercross, qui aura lieu le week-end prochain.
Le samedi et dimanche prochain.
Et là,
oui.
Ça sera à Paris. Hein.
Ça sera à Paris, malheureusement, parce qu'avant, c'était là, à 500 mètres d'ici. Quoi.
Oui, c'était plus simple pour nous.
C'était plus simple pour se garer et tout. Oui.
Voilà. Un interview de Marianne Moreau.
Elle organise un Honda Moreau Memory en souvenir de son mari qui est décédé. Elle réunit chaque année tous les pilotes, comme par exemple Jean-Michel Bell.
Un gros plateau, j'ai vu sur Internet.
Plateau. Ouais. Tous des anciens pilotes qui ont commencé à rouler avec lui.
Et puis, retour sur l'affaire de l'enduro des sables d'Hermenonville.
Oui, alors...
On en a parlé un petit peu dans l'émission il y a 3 semaines. Hein.
3 semaines, oui. Alors là, c'est parti devant le tribunal d'Amiens. La fédération, elle a mis ça... au tribunal, parce qu'il y a quand même 500 pilotes.
Bon, ce qui c'est un peu cavalier. Hein, 10 jours avant l'épreuve, on interdit justement qu'elle se fasse. Donc, c'était vraiment un peu...
Et ça, c'est très mauvais parce que bon, si ça fait jurisprudence, tous les championnats de France de sable, ça peut rentrer dedans.
Et pour terminer, le bilan de la saison 2017 du Mondial de Speedway.
Oui,
il y a toi qui en parle, Guy.
Ben oui, mais...
Il faut en parler.
Il faut en parler, oui, parce que c'est un sport méconnu en France, malheureusement. Et dans les pays slaves et dans les pays nordiques, c'est toujours 20 000, 30 000 personnes, quoi. Hein. Alors, c'était la dernière épreuve. Comme aujourd'hui aussi, il y a une dernière épreuve qui va se dérouler La dernière épreuve du championnat du...
Ah ouais, du monde... Ah bah, c'est, alors, je vais en parler aussi, hein, c'est à Valence aujourd'hui, sur le circuit de Ricardo de Tornau. Hein, donc effectivement, c'est la grande finale. Hein, bah, il reste encore une petite inconnue.
Petite chance.
Une petite chance pour Ducati. Hein, mais bon, ça va être léger, hein, parce que Marc Marquez a fait la pole. Et donc, je vois mal comment ça pourrait se transformer. Mais bon, ça à voir quand même. Bonjour Laurent.
Eh bien bonjour à tous. On démarre.
Le magazine de la moto, c'est sur Campus 106,6 tous les dimanches de 11h à 12h30. Et nous, au téléphone, nous avons Xavier Audouard.
Bonjour Xavier.
Bonjour à tous.
Ouais, Guy.
Vous m'entendez comme il faut?
Ouais, impeccable. Tu es toujours dans le train?
Pas du tout. Je suis dans le sud encore.
Encore
de chez moi dans les Landes, où il ne doit pas faire beaucoup plus beau que chez vous. Je ne sais pas où commencer chez vous, mais
ouais,
il
ne
fait
comme...
pas beau. Bon.
On voilà, a du soleil.
On est au mois de novembre.
On a du soleil quand même.
Ah ben alors, vous voyez, vous êtes mieux lotis que nous. Alors. Mais on est collègues de course de sable quand même, hein, quand on parle de moto et de
voilà.
Cross. Donc on a la course, moi je suis à Osgore, là, tout près près de là où il y a la course
de
sable d'habitude. Mais si c'était aujourd'hui, on ne se régalerait pas. Ah, oui. Par contre, c'est dans pas longtemps, je crois que ça doit être dans un mois. Donc,
dans un mois, oui.
Voilà, et d'ici là, il fera peut-être meilleur, on va dire.
Bien, Xavier, on va parler du Supercross qui va se dérouler à Nanterre dans l'U Arena. Mais avant, une petite question, parce qu'il y avait trois petits tours à Lille et puis vous êtes parti.
Alors, c'est exactement ce que tu dis, ces trois petits tours. c'était pas un plan prédéterminé, en fait. Tout cela, c'est l'enchaînement de l'histoire qui veut ça. Figure-toi que j'écrivais l'éditorial du programme il y a quelques jours, ce qui m'a donné l'occasion de me replonger dans... De raconter vraiment manuellement pratiquement tout ce qui s'est passé. Bon, on va en être à la 111e et 112e soirée de Supercross pour le Supercross de Paris, dont 104 déjà à Paris et 6 à Lille, si tu veux. Donc, évidemment, le Supercross de Paris a vocation à se dérouler à Paris. Et effectivement, donc pour la 105e et 106e, non pardon, 107e et 108e fois, ce sera le cas. Je dis une bêtise, 105e et 106e fois, bien. Ce sera le cas à Paris. Il n'y a pas une ville au monde qui a reçu plus de supercross que Paris, pas Anaheim, ni Los Angeles, ni tout ce que tu veux.
En effet, oui.
Et donc la légitimité, voilà, l'ADN de cette épreuve, elle est effectivement à Paris. On a été, les gens du Nord nous ont accueillis formidablement et Dieu sait si on en avait besoin puisque bon ben le palais Omnisport était en travaux. Depuis que les travaux ont été effectués, il y a eu un changement de direction, d'actionnaire et tout ce qu'on veut. Et on n'a pas le sentiment qu'ils étaient vraiment très enthousiastes à l'idée de voir revenir les motards et le bruit ou la terre qu'on mettait dans leur belle salle ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas le même raisonnement à la U Arena. Où Jackie Lorenzetti, c'est sa salle, quoi. C'est un truc privé, quoi. Hein. On n'est pas du tout dans le même schéma qu'on a pu connaître par avant, hein. Et y compris d'ailleurs au stade Pierre Mauroy, hein, puisque là c'est un partenariat public-privé, etc. Donc dont vous avez déjà entendu tous parler dans le Nord. Tandis que là, c'est Lorenzetti. Et Lorenzetti, c'est un gars qui venait, il y a 25 ans, il venait à Bercy avec sa fille qui était toute jeune. Ils m'ont raconté ça dans la première réunion qu'on a eue avec eux. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur, parce que là, on parle à des gens qui sont... c'est leur outil, c'est leur bébé, un peu comme on peut dire, ce stade. Ils connaissent le Supercross, ils avaient envie de Supercross et on est le premier événement à avoir signé pour cette salle-là. Tu sais que les Rolling Stones sont déjà venus.
J'y étais.
Un petit peu moins d'un mois. Donc tu la connais, tu la connais mieux que moi.
Ouais.
Moi, j'y suis pas retourné depuis qu'elle a été inaugurée, en fait. Moi, je connais qu'un chantier et une fin de chantier, tu vois. Mais bon, tu pourras nous dire peut-être ce que tu en penses. Alors pour un concert, c'est un concert, une course de moto, c'est une course de moto. Là, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a plus de place que ce qu'on n'a jamais eu, y compris à Lille, puisqu'à Lille, donc, on était en configuration rideau au milieu de la salle.
Il n'y avait que la moitié.
Dans les aspects techniques.
La moitié de la piste.
On avait la moitié de la piste, et là, on a les 4/5, quoi. On pourrait avoir la totalité, mais comme il n'y a pas de place à l'extérieur pour faire un paddock, le paddock va être en bout de l'aréna, dans l'embut, pour ceux qui connaissent le rugby, quoi. On utilise le terrain de rugby et l'embut adverse, mais pas l'embut derrière les poteaux. Donc ce sera le paddock, ce sera une originalité parmi d'autres cette épreuve.
Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'avec les quatre écrans super géants, on s'y croirait, quoi, presque.
Absolument. Alors attention, ce que tu as vu aux Stones n'était pas les écrans de la U Arena. Les Stones avaient leur propre système, à la fois de projection, d'écran, de machin, etc. Ce qui fait que le show qu'on va voir dans moins d'une semaine maintenant, j'ai du mal à y croire, ça va utiliser pour la première fois les dispositions de la salle en ce qui concerne les écrans. Alors quand on appelle ça les écrans, en réalité c'est des murs situés sur lesquels il y a un système ultra high-tech de projection d'images qui produit un résultat tout à fait comparable à celui des écrans habituels, mais on est sur du, sur du 6 fois plus grand qu'à Lille, quoi, 8 fois au total, parce qu'il y a aussi deux écrans latéraux.
Ah
donc,
oui.
On change complètement de dimension, mais pas que par rapport à Lille d'ailleurs. Là, c'est même par rapport, il n'y a pas un stade au monde qui a des écrans comme ça. Même le plus grand, c'est Arlington au Texas. Alors encore une fois, il faut comparer des pommes avec des pommes. Eux, c'est un écran LED, etc. Et donc c'est pas la même technologie. Mais là, on aura une surface de projection plus grande, quoi, encore. Donc on est dans le super XXL de ce point de vue-là.
D'accord.
Et j'espère que ça donnera bien. Ça va être bizarre de voir des images de gros plans des gars en action. Je sais pas, moi, c'est une des questions que je me pose. Qu'est-ce qu'on va regarder vraiment quand on sera dans la salle?
On va regarder de près Marvin Musquin, hein, qui sera quand même en vedette, hein, qui était le king de Lille l'année dernière.
Oui, là-dessus, je pense que le royaume, c'est le royaume de France. Hein, nous, quand on était à Lille, encore une fois, on était excentrés, mais c'était toujours l'ADN de l'épreuve. C'est l'épreuve phare en France, quoi, et on va dire en Europe, bien sûr, et même dans le monde pour ce qui est de l'intersaison, en dehors du championnat américain. Mais qu'elle se déroule à Paris ou à Lille, ou je veux dire, ça reste celui qui gagne cette épreuve-là, c'est le King of France, pratiquement. Donc, alors, cette année, ce sera le King of Paris. Mais effectivement, Marvin n'a pas de King of Paris encore à son palmarès. Il a le King of Lille, qui est tout à fait équivalent. Mais je pense qu'il sera bien content d'en rajouter un deuxième, quoi qu'il arrive. Et même si ça ne lui rapporte pas $1 million comme il y a quelques semaines à Las Vegas,
oui.
Ça, il a fait le jackpot là-bas. Vous inquiétez pas qu'il vient pas pour rien quand même, mais c'est pas du tout le même style de système, quoi.
Alors, voilà,
là-bas c'est tout ou rien un peu. D'accord. Alors que nous, donc, on est plus dans il est normal que Marvin nous fait l'honneur de mettre à son calendrier cette épreuve qui lui tient à cœur. C'est pas facile, hein, les pilotes de son niveau, et il est au super top, quoi. Ces gars-là, leurs employeurs sont très 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 réticents à les laisser faire quoi que ce soit d'autre que le championnat pour lequel ils sont payés. Bon, Marvin a choisi Paris pour avoir quand même, il a droit à deux courses en fait dans l'année à sa guise, et il a choisi Paris et Genève d'ailleurs. Comme ça, il vient faire une tournée un peu à la maison, on va dire.
D'accord. Et Marvin, donc, il va avoir en face de lui, pas mal de pilotes américains, bien sûr, et des pilotes français.
Absolument, oui. Ah. Marvin va pas se balader pour autant, il faut pas croire ça. Il y a une heure ou deux, vient de se terminer le Supercross de Sydney, où Dean Wilson a gagné hier soir et fait deuxième derrière Jason Anderson ce soir. Dean Wilson, il sera là à Paris dans quelques jours. C'est un officiel du Husqvarna. Il y a Zach Osborne qui est double champion des États-Unis cette année en catégorie 250, certes, mais qui roule très très bien en 450 également, et qui d'ailleurs veut poursuivre sa carrière en 450 à partir de la mi-saison prochaine en motocross. Donc il y a Cole Seeley qui a déjà gagné une finale de Supercross avant même que Marvin en ait gagné, qui est un type qui accumule les podiums là-bas et tout. Et il est peut-être pas aussi flashy que Marvin, mais si Marvin fait la moindre faute, ça va être compliqué.
Ah, oui, oui.
Face à des garçons comme ça. Il y a R.J. Hampshire aussi qui a gagné le Grand Prix des États-Unis en claquant tous les Européens, les vedettes des Grands Prix, dans l'avant-dernier Grand Prix aux États-Unis, donc cette année, il y a à peine 3 mois, un jeune garçon super rapide aussi et plein d'ambition. Franchement, tu sais bien, Guy, hein, j'ai fait cette course, enfin j'ai fait ce plateau depuis, ça va donc être la 35e fois. Et ben, je peux dire que depuis, allez, on va dire le siècle dernier, je pense qu'on n'a pas eu un plateau aussi fort.
Aussi fort.
Sans compter qu'on a aussi du freestyle et que ça, on l'avait pas au siècle dernier. Et là, quand tu vas avoir du Jackson Strong, du Josh Sheehan, du David Rinaldo qui vont nous faire un concours de best trick à coup de front flip, de double flip et de choses comme ça, ça va quand même, ça change la donne. Là aussi, on passe comme dans tout le reste.
Sans oublier
le stade, la piste, on passe dans une autre dimension cette année. C'est un peu le mot le leitmotiv, on va dire.
Et sans oublier Torrent Terrasse.
Ah ben bien sûr, Edgar. Alors Edgar lui-même, il sera pas impliqué dans le... Enfin, il sera impliqué, mais à sa manière. Je vous réserve la surprise à ceux qui viendront dans le Best Trick. Edgar, c'est un garçon exceptionnel. On a fêté ses 20 ans de carrière à Lille, justement, il y a 2 ans. C'est un monument, c'est ce qu'on veut. À côté de ça, on ne va pas lui demander de faire un double flip pour aller la jouer face au petit jeune qui arrive, ni comme ça. Son talent, il est ailleurs, il est formidable. C'est un meneur d'ambiance et c'est un peu dans ce rôle-là qu'on le retrouvera à Paris la semaine prochaine. Mais bien sûr, il sera au guidon aussi, hein, vous inquiétez pas, le freestyle, il n'y a pas que le Best Trick, il y a 2 séances et dans la première, Edgar sera là du début à la fin sans problème.
D'accord. Donc, pour revenir aux horaires, c'est samedi, c'est à partir de 20h. Et dimanche à partir de 15h, c'est ça, hein.
Alors là-dessus, je ne sais pas quelle a été tant d'expérience personnelle au niveau des Stones. Bon, en configuration Stones, il faut comprendre qu'il y a 35 000 spectateurs. Nous, la jauge est à 22 ou 23 000. Par conséquent, ça ne fera pas la même cohue, on peut imaginer.
Ouais.
En plus, la Stones, c'était la toute première épreuve, événement qui avait lieu à la U Arena. Bon, depuis, je sais qu'ils ont pris des dispositions, etc. Pour autant, je conseillerais évidemment à tout le monde d'arriver en avance parce qu'il y a un show qui débute très tôt, enfin qui débutera à l'heure, et que ce soit à 20h le samedi ou à 15h le dimanche, ça commencera à l'heure. Pourquoi ? Parce que ce stade est hyper urbain, il est en plein milieu des habitations, etc. Il y a des riverains, le stade n'a pu ouvrir qu'à travers une convention passée avec la préfecture et les riverains.
Ah,
et donc à 23h30, poup, c'est terminé.
C'est
alors
fini.
Bien sûr,
c'est
si on a un pépin, un drapeau rouge ou quelque chose comme ça, évidemment, on aura le droit de continuer. Mais enfin, on a vraiment un impératif d'horaire, ce qui fait qu'on ne commencera pas en retard. Quoi. Voilà.
D'accord.
Donc, et comme le show vaudra la peine d'être vécu parce que... tu as vu la salle et tu as vu quand même là-dessus d'un point de vue des possibilités de show dans cette salle.
Ah ouais, c'est...
C'est là aussi une autre dimension. Donc voilà, c'est un ensemble, il ne faut rien en perdre et il faut arriver à l'heure. Pas la peine d'amener, éviter peut-être les casques. Enfin, il y a une consigne, hein, bien sûr, il y a des consignes dehors, mais les sacs à dos, les machins, les trucs, tout ça, c'est... Bon, voilà, on est malheureusement,
ouais.
Hein, on a connu ça... à Lille, hein, les événements, c'était à Lille pendant qu'on y était il y a 2 ans, et depuis, la donne a changé, et voilà, il faut s'adapter, on est content de continuer quand même à pouvoir produire des événements pareils.
Très bien.
Mais le public doit s'adapter et pas venir avec des tas de trucs, parce que sinon, il sera obligé de les laisser à l'extérieur ou à la consigne,
voilà.
On ne sait pas, parce qu'il y a plus pratique.
Xavier, on te remercie de toutes ces précisions. Et puis, rendez-vous, parce que tu sais qu'il y aura beaucoup de nordistes qui seront là-bas.
En repartant de Lille, on savait bien que les nordistes nous suivraient. De toute façon, quand on est parti à Lille, dis-toi bien, j'avais fait l'étude moi-même à partir des chiffres qu'on avait, j'avais regroupé les chiffres qu'on avait. On avait, dans les dernières années de Bercy, on avait plus de 21%, si je me rappelle bien, de notre public qui venait entre Paris et la frontière belge.
Voilà,
et la mer du Nord. Or, en parisien, région Île-de-France elle-même, si tu veux, on était qu'à 19. Donc on avait plus, et c'est ça que j'avais mis en avant pour dire qu'il faut s'en aller à Lille, parce qu'on a du public là-bas, et le public nous est fidèle. Il venait déjà à Bercy, et je pense qu'il reviendra à la U Arena, et entre-temps, on est venu lui faire un coucou à Lille, comme tu l'as dit.
Ok. Xavier, encore merci, et puis rendez-vous, on va peut-être se croiser soit samedi, soit
dans
dimanche.
Dans moins d'une semaine.
Voilà.
Dans moins d'une semaine. Ouais,
on te remercie.
Encore.
Allez, salut.
Allez, à bientôt.
À bientôt, dimanche. Salut. Since high school,
Tell me, how's your life? How are things with you? Did you know that I am married? I've got two kids too. Oops, there goes my pager. Been nice talking to you. Sorry to say I'm running late. I gotta go, I can't wait. Right now I am running behind. I promise to drop you a line if I can find the time. College buddy, you got me through those hazy days. Those times were really cool. You know that I'm a corporate man. What's become of you? Please excuse me, that's my phone. I got business to do. Sorry to say I'm running late. I gotta go, I can't wait. Right now I am running behind. I promise to drop you a line if I can find the time. Work, I need to close this deal. What's up, Bobby Blue? I haven't seen much of you. Well, I'd shoot the shit, but I gotta get sure nice talking to you. Sorry to say I'm running late. I gotta go, I can't wait. Right now I am running behind. I promise to drop you a line if I can find the time.
Alors attention, la musique qui va bien et les motos qui vont bien avec l'émission en plus, Guy.
Et voilà. Oui.
Et Xavier, avant de raccrocher, nous a dit, eh ben écoutez, j'offre des entrées à vos auditeurs, aux auditeurs de Radio Campus.
Du Supercross.
Mais pour
le dimanche.
Pour le dimanche uniquement.
Pour le dimanche uniquement.
Alors on vous donne le numéro de téléphone.
Et qu'ils appellent pendant les morceaux de musique.
Ouais, 03 20 91 24 00. Et c'est des entrées à je ne sais pas combien, 50 euros, je pense.
Ah non, 80 euros. C'est déjà des bonnes places.
Voilà, on a quelques entrées à vous offrir. Voilà, vous nous téléphonez, 03 20 91 24 00.
Et maintenant ?
Alors oui, on va retourner avec Corinne. Alors Corinne, déjà en entrée de jeu au sommaire, ça m'a impressionné. Son papa qui lui offre le mur de la mort à sa communion. Ça va, franchement, là, je ne croyais pas trop quand même.
Alors Corinne, c'est vers l'âge de 6 ans, tu as commencé à déjà à monter 6-7 ans, à rouler sur les motos que ton père récupérait à l'armée.
Ah, il y a un numéro. Ah, maintenant, ça sonne maintenant.
Donc, ouais, déjà, oui, déjà, alors on dit d'appeler pendant.
Voilà. Pendant... Bon, allez, on continue avec Corinne. Voilà.
Alors, Corinne. Ouais. Alors, ses débuts, vas-y.
Donc, bah, moi, j'ai toujours, à l'âge de 7 ans, j'ai donc commencé à rouler en moto. Et puis, bah, tous les jours, c'était, y avait, on travaillait donc dans le milieu de la ferraille. Donc, il y avait de quoi. On avait des motos à l'appel, on va dire, chez nous.
Ouais.
Et papa, il me poussait tout le temps à rouler en moto. Donc, bah, le soir après l'école, bah, c'était monter sur la moto, c'était faire des balades avec lui. Papa lui, qui avait toujours eu une Harley Davidson, j'étais souvent derrière lui quand... À l'époque, il faisait les courses cyclistes.
Donc il ouvrait.
Oui, il ouvrait. Hein, et donc j'étais derrière lui. Et voilà, quoi, c'est une passion quoi, que j'ai toujours.
C'est une moto aussi, alors, ton père.
Il était, bah, bien sûr, il a fait également du motocross, Christian. Et puis de l'autocross, mais beaucoup de motos, toujours de la moto, hein, jusqu'à quand il n'y a plus, quoi, jusqu'au jour où il n'y a plus si, on va dire. Mais voilà.
D'accord. Ensuite, tu es parti à faire du trial.
Voilà, ben donc, avec toute une équipe de Merville, hein, bien sûr, hein, faut pas oublier tous mes potes, hein, Gilbert, Rudy, enfin Jean-Pierre Delepierre, hein, qui est actuellement toujours président à Merville, au motoclub mervillois, quoi, et tous les autres copains que peut-être j'oublie. On a acheté des motos, on est allé dans une grande concession à Lille, hein, pour pas la citer, et puis on a acheté 4, 5, 6, 7, 6 TY, et puis on s'est mis à faire du trial, des démonstrations. On allait rouler au monde récollé à Cassel. Tous les dimanches matin, on était partis.
Donc, c'était 6 achetés, une gratuite, non, moto, non.
Peut-être pas, quand même pas, mais bon, on en avait acheté 6, si, jusque 6 d'un coup.
Ah, d'accord.
Voilà, jusque 6 d'un coup. Et on faisait des dimanches matins où vraiment on s'éclatait dans ce qu'on aimait bien, c'est-à-dire la moto. Voilà, la Cassel. En trial, alors, je parle.
Alors, tu dis aussi que quand tu faisais le motocross, tu avais une 125 Gnomeron.
Oui, bah, papa.
Et quand elle roulait plus, tu sautais sur la motobécane, ou la Terreau, ou la Triomphe, ouais. T'avais le choix, quoi.
Bah, voilà, parce que j'avais la chance d'avoir des ouvriers à mon père, qui est en même temps un peu mécanicien, et que c'était une moto qui était en panne, il la remettait en route après, et puis, bah, j'étais toujours quand j'étais pas à l'école, je traînais hier les parents dans le château de ferraille, et je roulais en moto, je faisais que ça, quoi. Voilà, j'ai une chance, comme ça, de pouvoir rouler tout le temps, quoi, m'amuser. Et papa m'avait fabriqué des tremplins, et c'est comme ça que j'ai commencé
Tu sautais les tremplins que ton père avait fabriqué.
Avec du bois, de l'alcool.
Et t'essayais de sauter de plus en plus haut.
Voilà, bah, puis après, on a fait du trial, donc ça, forcément, on monte, on descend les. Hein, comme à Cassel, quoi. Il y a les mours de pierre, il y a tout ce qu'il faut, hein, les souches d'arbres, les machins, et puis ça continuait, quoi. Voilà. Une très bonne expérience, d'ailleurs.
Là, on parle d'année 68-85, hein. Un petit peu avant, même. Alors, c'est un peu avant, quand même.
Non, ouais. C'était en...
Année 60. En fait, tu as commencé à faire le championnat des Flandres en 68, ouais,
j'avais,
à peu près.
J'avais environ 14 ans, 14-15 ans, quoi. Donc, et ben là, oui, j'ai commencé à rouler quasiment tous les... Enfin, quand il y avait des courses, bien sûr, en Ufolep, on a commencé en Ufolep, hein. Avec bah, toujours pareil, la même équipe de Merville, toute une bonne équipe. Et puis, bah, on allait à Vicent-Artois, on allait dans toutes les courses Ufolep, quoi. Et bah, sans prétention, disons que je me plaçais pas mal quand même. Hein.
Et à l'époque, il n'y avait pas de catégorie féminine.
Du tout. Donc,
tu étais avec les hommes.
Bien sûr, je me battais, je faisais la course avec les hommes. Et puis, bon, hein. C'est vrai que j'ai une image où je prenais toujours des bons départs, très bons départs.
Ouais,
j'avais une place, je pense, moyenne dans le classement sur 30-35 motos. J'étais souvent dans
les 5 premières. Quoi.
Ouais, dans les
4
premières.
Parce que moi, je l'ai vu rouler. Hein, Ça équivalait à notre Olivia Lancelot, tu vois.
Ah oui, quand même.
Ouais. Alors c'est dommage qu'on n'a pas que ce championnat est arrivé trop tard et puis à l'époque ça n'existait pas. Mais je pense que Olivia aurait eu du fil à retordre avec Corinne. Et Corinne aussi, j'avais lu aussi à Lille il y avait une concentration des motesses. Et il y avait 200 filles, et toi, tu avais gagné le Gymkhana avec je ne sais plus combien de minutes, enfin de secondes, ouais, d'avance.
Oui, c'est vrai que j'avais fait un record au niveau Gymkhana. Bah, de par nos motos de trial, on était un peu entraînés. Et en même temps, sur Merville, on faisait Merville et les villes avoisinantes, on faisait des prestations le dimanche. Donc, on faisait du trial, quoi. Et donc, ça m'a quand même donné un peu de marge pour. arrivé à faire un expo, je ne sais plus comment j'avais fait, en moins d'une minute, je crois que j'avais le circuit. C'était, je pense que c'était anglo, non ?
Anglo, ou bien c'était... Non, c'était à Lille.
À Lille, les antilopes, c'était les antilopes.
Ouais, les antilopes, voilà.
Ouais, il y avait, bon, je ne sais plus combien il y avait de motards, mais ma foi...
Il y en avait beaucoup. Hein. Voilà. C'était le motoclub lillois qui avait organisé...
Ah d'accord, ouais, je ne me souviens plus.
Qui avait organisé ça.
Est-ce que tu as participé à l'enduro du Touquet ? Ou les premiers enduro ?
Eh oui.
Parce que je vois que tu lorgnais sur secrètement, sans le dire à personne, que tu voulais t'engager à l'enduro du Touquet. Donc ouais. Les premiers, alors les tout premiers
c'est
enduro.
Vrai c'est vrai que j'ai fait le premier enduro. J'avais pas 16 ans, donc.
Triché. Mais j'avais 15 ans et demi en fait.
15 ans et demi, mais ils m'ont pris quand même. Comme j'étais une féminine, ils m'ont engagé quoi. Et puis, sur 8 enduro du Touquet que j'ai fait, bon, j'en suis fière. Hein, j'ai quand même fini 7 fois première féminine.
Ah oui.
Ouais. Donc, je pense que là, l'exploit, hein, en faisant
c'est quelque chose,
une
hein.
performance dans les 200, 250 à 325 premiers, quoi. Sur 1200 motos, je pense que c'est pas trop mal, quand même.
Ouais, c'était pas trop mal.
Alors, le premier enduro, c'était avec quelle machine ?
Alors, j'avais, je me souviens même plus, j'avais Yamaha, j'avais devoir des YZ Yamaha, en 125. Toujours en 125 cm3. Ouais. Et après, j'ai passé, les dernières années, on est passé en 250 cm3.
Et je voulais aussi signaler, tu me diras, c'est ce que tu m'avais dit, il y a eu le premier motocross à Merville qui a été organisé, et toi tu étais au départ avec ta trial, et tu gagnes.
Oui, ça c'était dans un tout petit terrain alors à l'époque, c'était un tout petit terrain non officiel à Merville, hein, très très vieux bien sûr, qui était dans notre quartier, là, on va dire chez nous, pour ne pas dire la cité Bouillée, et on avait organisé un petit motocross. Et une manche, j'ai gagné la première une manche. Et l'autre, c'est Rudy Catoun qui a gagné l'autre, la deuxième d'accord. manche, bien sûr.
Mais avec la moto de trial.
On avait quasiment des trials, tous des trials. Hein.
Ah d'accord.
Ouais, on avait
donc
fait,
c'est un trial cross.
Voilà, ouais, on n'avait pas encore, un petit terrain de motocross.
Bon, je rappelle qu'on a des entrées à vous offrir durant le morceau de musique. Là. Oui. Appelez-nous durant le morceau de musique donc pour ce fameux Supercross qui aura lieu donc, le week-end prochain. Mais donc, ça n'est entré que pour le dimanche. Hein.
Que pour le dimanche.
03 20 91 24 00.
If it tastes like sugar, then it must be sweet. If it tastes like honey, it got to come from the bee. If it feels like a tidal wave, it got to come from the sea now. Ain't no illusion, no way, no how, it come to me. Love, if I feel like love, if I feel like love, rescue me, you got to rescue me. If you feel like running, don't you run away. If you feel like talking, if you feel like going on, baby, to all of your friends, just remember life is short. What you get back in the end. If you feel like love, if you feel like love, if you feel like love. Got to rescue me. If it tastes like sugar,
then it sure is sweet. If it tastes like honey, got to come from the bee. If it feels like a tidal wave, got to come from the sea. If it feels like love now, baby, bring your love right home to me.
Yeah!
I feel like love. I feel like love. I feel like love. Rescue me. You got to rescue me. Why will you rescue me? You got to rescue me. Got to rescue me. You got to rescue me. Rescue me. Rescue me.
La paix plus pour les entrées, donc pour le Supercross. C'est fait, c'est gagné. Voilà.
Ah, le téléphone a chauffé.
Oui, ça a chauffé. Tout rouge, Guy. Voilà. On retourne avec Corinne. Brunel.
Corinne.
Alors, elle est pas tant qu'un Corinne. Elle fait du cross avec une moto de trial.
Ouais. Du saut de tremplin avec des gonnerums. Donc, après le trial, tu es venu au motocross.
Oui.
Hein, et c'était toujours avec le motoclub de Merville.
Avec le motoclub de Merville, on est toute une bande, et donc tous les dimanches on partait sur les circuits. Hein. On allait jusque la Somme, les départements avoisinants, quoi.
D'accord.
Et voilà, on a fait le championnat au départ, le championnat des Follets, et puis après je me suis aussi inscrit dans le championnat des Flandres avec tous les gars à l'époque. Hein, forcément, il n'y avait pas de championnat féminin.
Mais il y avait un championnat féminin en Belgique où tu as été roulé, et même en Hollande.
Ah oui, alors ouais.
Tu as roulé dans le sable, tu as fait des châteaux de sable.
Et oui, alors donc là, en parallèle de la France, quand il n'y avait pas de course en France, je partais donc rouler en Belgique. J'avais la chance d'avoir mon papa qui m'emmenait tous les dimanches en Belgique, et on allait très loin, on allait du côté de Gand, Bruxelles, la Hollande, partout, on allait rouler avec un cheval. Il y avait donc là-bas un championnat féminin. Et là, c'était une très belle histoire, parce que là, j'ai donc tombé sur une fille qui a été championne d'Amérique, qui s'appelait Danielle Picard, et avec qui j'ai lutté tous les dimanches. J'étais en général troisième, deuxième, ou voire première chaque dimanche.
C'était
la course tous les dimanches, c'était extraordinaire.
C'était soit toi, soit elle.
Et les Belges, avec un tout petit terrain, ils faisaient tout de suite chaque dimanche un terrain de motocross.
Avant, c'était... Ça allait vite, ils mettaient deux piquets et puis parti, quoi.
Et la bonne ambiance. Et bon, après, il y avait les chutes, hein, quand même, ça roulait très 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 vite, donc voilà.
Tu résidais combien de filles?
Toujours sur Yamaha?
J'étais beaucoup, très longtemps sur Yamaha. Oui, à cette époque-là, j'étais sur Yamaha. Il n'y a qu'en 80 ou 81, que j'ai une Kawasaki. À l'époque, on avait été sur l'île, une concession sur l'île, on avait acheté des Kawa. Aussi, toute
7 ou 8
Au moins 5, comme. 4-5. Si. Chez Concession du Croc, pour pas la citer, à Lille.
Et ensuite, t'as roulé Honda aussi, alors.
Eh oui. En gros, j'ai fini ma carrière motocycliste en Honda. C'était une moto qui marchait très très bien. Et j'aurais pu. Enfin, si j'ai encore. J'avais ça, je roulais aussi bien là-dessus que sur une Yamaha. Mais bon, tout allait bien. Et j'ai fait des belles performances également. Et donc j'ai fini un petit peu ma carrière. On a roulé plutôt dans la région, en Ufolep. Je suis revenu en Ufolep, hein, en fin de carrière moto, quoi, avec des terrains comme à Douvrin, dans notre coin, quoi, à Merville, bien sûr. Hein, je roulais également à Merville. Et puis après, un petit peu à la fois, j'ai pensé à ma vie privée. Donc après, j'ai donc eu des enfants, une enfant, quoi, une fille. Et donc j'ai laissé un petit peu tomber la moto, quoi.
Ouais,
entre guillemets. Hein.
Ouais, entre guillemets.
Alors, la citadelle de Namur, il y a une histoire là. Tu trouves derrière la grille de départ?
D'accord, oui. Donc là, j'avais.
Je vois ça sur ce
alors, là, j'avais. Écrit, là. Comme j'avais fait les 24 heures de Bretagne, tout terrain aussi, et j'avais donc été invité par une fille, de Paris qui m'avait demandé si je voulais pas rouler à cette course qui était championnat du monde, hein, dans la citadelle de Namur, c'était le championnat du monde masculin, bien sûr.
500, oui.
Et en 500 cm3, Guy, oui, exact. Et il y avait donc une course féminine et j'ai donc pris départ à cette course où j'ai fini 12e, hein, donc avec toutes des filles. Et là, c'était quelque chose de... Un terrain très très accidenté, très dangereux.
Très difficile le circuit.
Très difficile, hein, ah ouais, des montées abruptes, ah ouais, je ne sais pas combien. Et bah, les racines d'arbres, il y avait un peu de tout, mais ça a été. Je pense que j'ai fini 12e et j'ai bien roulé.
C'était déjà un plateau relevé, bah, tu vas dire, c'est champion du monde quand même alors. Donc,
oui, bah, moi j'étais en course.
C'est une course annexe.
Hein. Annexe, hein, d'accord. Hein, annexe, champion du monde, oui. Mais c'était impressionnant, le monde.
C'est les spectateurs.
Ah oui, parce que. Namur, c'est toujours 20 000 personnes. Est-ce que tu as passé devant le café de, des sports, je crois qu'il s'appelle, où il y avait le Suédois Håkan Karlqvist et Joël Robert se sont arrêtés pour boire une bière.
Ils avaient beaucoup d'avance alors.
Ah ouais, ils avaient de l'avance.
Ah, c'est possible. Non, mais
ouais, mais si tu finis 12e, c'est parce que tu t'es arrêté. Je
même pour cette époque-là, non, j'ai pas arrêté.
Je me souviens plus qu'il y aurait une bistrot. Ah. Oui, donc là, c'est impressionnant. C'est plus des petites courses comme ça sur des petits circuits improvisés. C'est carrément, comme dit Guy, 20 000 spectateurs. Et là, ça change un peu quand même. On est impressionné, hein.
Ouais, on est très impressionné, surtout quand on doit s'aligner comme dans les grands prix, hein.
Ah ouais,
on était à 30, je pense qu'on était 35 filles au départ et tous avec les mêmes dossards.
Comment ça part le départ? C'était avec un. Comment ça s'appelle?
Une grille.
Une grille, c'est pareil, ouais. Mais on avait quand même deux entraînements, hein, et puis deux manches, quoi, bien sûr. Hein.
Mais c'est une fille, une Française qui gagne, qui s'appelle... Marilyn.
Marilyn, c'est ça, oui.
Le Blanc.
Enfin, c'est ça. Marilyn Lacombe,
hein,
qui était championne de France, ouais, de trophée féminin. Voilà, et donc la Marseillaise va résonner sur là-bas à Namur.
Et oui, on a eu les honneurs, la Marseillaise, et puis on a eu, je pense, je ne sais plus ce qu'on a vu qu'en cadeau, mais on était bien remerciés, quoi, disons.
D'accord. Et c'est papa qui faisait la mécanique à chaque fois?
Il y avait papa, puis il y avait son copain, ses copains, ouais, les amis, Gilbert, entre autres, hein, monsieur Dupont, et puis tout le monde.
Alors comment se passait la mécanique à l'époque? C'était une petite camionnette?
Alors on avait une petite camionnette toute simple, et puis la caravane derrière, et puis j'emmenais beaucoup d'amis avec, mes copines surtout, mes sœurs. Hein,
ouais,
beaucoup, et puis c'était mes femmes et mes supporters, hein, voilà. Si je les avais pas eu, ah ben ouais, je pense que j'aurais peut-être pas
à chaque
arrivé
fois, voilà, ah c'était ouais, à chaque fois sur les circuits, t'avais les groupies avec toi alors,
ah ouais,
mais il y avait des bus complets qui venaient te voir au Touquet par exemple, ouais,
c'est vrai, au Touquet on a réussi à faire jusqu'à 4-5 autobus.
Non.
Ah ouais, si, 4-5 autobus de supporters rien que pour moi.
Hein.
Donc, que j'avais fait cousin à la Merville.
C'est Marquez.
C'est pas Marquez, ouais, c'est bien.
Si, c'est
Marquez, il y a pas
ça. Je leur distribuais même chacun un dossard avec mon numéro.
Non,
c'est vrai. Et oui. Donc là, ça motive quand on est sur la fin de l'enduro du Touquet, qu'on est très fatigué. Ouais. On a motive quand on voit tous nos supporters là, qui sont là. Allez, vas-y.
Alors, toi, c'était l'ancien enduro. Enfin, on passait dans les dunes. Hein.
Voilà, c'était pas l'enduro pas, c'était l'enduro du Touquet.
Plus comme maintenant.
Il y avait le goulet à l'époque.
Il y avait le goulet là-bas, c'était là. Il y avait tout. C'était compliqué, quoi. Il fallait se battre, il fallait pousser, il fallait pousser.
Alors, là, au Touquet, les hommes et les femmes sont mélangés. Hein. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de catégorie féminine.
Si, il y a
une catégorie, mais tout le monde part en même temps. Donc il faut donner des coups d'épaule, hein, pour pouvoir passer. C'est physique.
C'est chacun pour soi. Hein. C'est physique. On y va, on s'y donne, pendant 3 heures, et puis on tombe, on se relève, on repart, on se fait mal, tant pis.
Tu faisais de la muscu à l'époque ou avant de participer à cette édition?
Je faisais un petit peu de course à pied, mais. J'étais tout le temps derrière mon père, surtout dans mon chantier, en train de bricoler avec lui. Puis c'est peut-être ce qui m'a forgé une bonne condition physique, je veux dire.
C'est quand même le cross, c'est quand même un sport assez justement physique qui demande justement à avoir un bon entraînement quand même.
Vas-y.
Oh pardon, j'avais la chance d'avoir un papa qui me laissait quand même mes mercredis, les vendredis. Enfin, j'allais quand je voulais m'entraîner, quoi.
D'accord.
Donc c'était déjà l'entraînement moto, c'était déjà important aussi. Hein.
Parce que Corinne a fait du motocross, mais figure-toi, la Miche, elle a fait du super moto sur le circuit de Carole aussi.
Ah oui, en plus, oui, d'accord. Bon.
Oui,
est-ce qu'on a le temps de passer un morceau de musique et on parle un peu de ça après? On passe un morceau de musique et on se retrouve avec Carole.
Elle a une grande histoire.
Ouais.
Hein.
We'll see what happens here. We'll be right back.
time as a kid. Body of water, water, body, back, flipping on the drill. Another drip from the lips and down between your knees, yeah. You're down between the knees, not even a heartbeat. It went so easily. Back flips, yeah. You're down between the knees, not even a heartbeat. It went so easily. Back flips, yeah, but it breaks. I bet it flips like that, like a slide, like an easy little ride. Even a heartbeat. Back flips as a kid, you always went and tried. Little drip came from the lips, and then it all went up and died. Just a big, big drip, drip, minute slip up, minute slip down. Just a minute slip up, slip down, tight side, but an easy ride. Yeah! Between the knees, not even a heartbeat. It went so easily. Back flips, yeah. You're down between the knees, not even a heartbeat. It went so easily. Back flips, yeah, but it breaks. I bet it slips like that, like a slide, like an easy little ride. Not even a heartbeat. Yeah. You're down between the knees, not even a heartbeat. It went so easily. Back flips, yeah. You're down between the knees, not even a heartbeat. It went so easily. Back flips, yeah, but it breaks. But it slips like that, like a slide, like an easy ride. Not even a heartbeat.
Voilà, le tout terrain aujourd'hui à l'affiche de cette émission avec Corinne Brunel, mais alors qu'il nous épate. Ah, là, ouais. Là, on reste un peu sur le derrière, là, quand ouais. même. Bon, on part donc sur le circuit de Croix, enfin, pas de Croix, ouais,
de Carole.
De Carole.
Ouais, ouais, ouais.
Et après, autre circuit, autre aventure,
c'était les mi-chemins. C'est une course d'enduro. Et puis après, entre deux, elle a fait le mur de la mort aussi, non?
C'est entre deux.
C'est entre deux, tu vois. Pour se prendre la main. Quoi. Donc, Carole, c'était quoi? C'était une course.
C'était une course parmi tant d'autres. Quoi. Donc, j'ai été. Ils m'ont appelé pour demander si je voulais rouler sur ce circuit, hein, qui était un circuit mixte, tout terrain et bitume. Hein, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et donc, à l'époque, je roulais
sur. Supermoteur, en fait. Supermoteur.
Supermoteur, ouais, voilà, ouais. Et donc, j'ai donc roulé qu'une Kawa. J'avais un Kawa, 125 cm3. Et j'ai bien fini. Bon, j'ai pas fini première, bien sûr, hein. Mais j'ai dû finir dans les 5 ou 6e à l'époque. Là. Et je connaissais pas du tout le bitume. Hein.
Ah oui,
donc,
et alors
c'était impressionnant parce que j'étais resté avec des pneus tout terrain.
Oui, c'est une discipline un peu particulière quand même. Voilà. Hein. C'est terrain, bitume.
Et entre deux, quand il y avait des portions de tout terrain, ça allait. Quand on repartait sur la route, sur le bitume, quoi, c'était glissant. Donc il fallait faire très attention pour ne pas tomber. Quoi, voilà.
Et tu m'avais dit que tu n'as jamais été blessé en course. Tu étais blessé, mais bêtement, peut-être,
ouais,
à la maison.
Oui, bêtement, quand, en course, non, bah, j'ai tombé, j'ai eu des hématomes, j'ai quand même eu des douleurs, quoi, je dirais. Et c'est un dimanche, derrière chez mon père, dans un champ, j'ai été parti faire un peu de moto, du wheeling, mais surtout d'une roue. Là. Et puis j'ai levé un peu trop la roue, puis je suis retombé sur le dos, et puis donc j'ai un peu cassé. Bah, tout le bas du dos, quoi, on va dire.
Ah oui, quand même.
Ouais, les lombaires, le coccyx et puis tout. Ouais. Hein. Et donc là, j'ai quand même été pendant quelques 4-5 mois un peu bien embêté, quoi. Puis après, mais j'ai quand même repris après un petit peu. D'accord. Le motocross.
Et aussi les mille chemins avec c'était trois fois je crois,
les mille chemins c'était... Ouais, participé trois fois aux mille chemins, à l'époque Hervé Gers qui m'avait contacté, hein, d'Hazebrouck, un très grand pilote également Hervé Gers, hein, beaucoup de Dakar à son palmarès également,
ouais, ouais.
Et donc j'ai roulé, à l'époque on avait des voitures, il y avait des motos, et... C'est vrai que l'organisation nous avait même demandé à Merville, on avait un pont qui passe au-dessus du canal et comme on devait passer ce pont avec les voitures et les motos, on avait mis des plaques métalliques pour pouvoir passer au-dessus du canal pour faire plus accidenté, quoi. C'était donc, ce que ça voulait dire, les mille chemins, c'était on passait partout dans les bois, dans tout ce qui coupait les nationales ou les départementales. Et puis à l'époque, j'ai dû finir également, encore une fois, 12e la première année. 10e la deuxième année, c'était sur deux jours quand même, hein. Deux jours de tout terrain, avec des spéciales sur le circuit, à Rudy Potsek à Cassel, une spéciale aussi à Winzel, sur le circuit de Winzel, et où là, il y avait Rudy Catoun qui avait bien roulé également aussi, le copain Rudy, ouais, voilà.
Et une partie du circuit allait aussi en Belgique, où les Belges ont barré certains chemins. Parce que ça je le sais parce que moi j'ai fait l'assistance à Bruno Chrétien à l'époque.
D'accord.
Et ça je me rappelle qu'il y avait les Belges, c'était pas autorisé ou je ne sais pas parce que bon avant
il y avait encore la frontière à l'époque.
Ouais voilà, il y avait encore des miradors et des
quoi, pas ce quand même qui
ils tiraient.
Ouais, nous on n'a pas eu de coup de fusil de chasse quand même, hein, quand on a roulé à l'époque ça s'est très bien passé, il y avait une bonne équipe quoi, une bonne organisation également aussi, et puis et c'était un beau parcours, c'était physique
bien
sûr,
bien.
Hein, parce que voilà les chemins on sait pas ce qui nous amène, hein, devant le il peut y avoir des pierres, il peut y avoir des trous, des machins, non mais c'était une belle aventure aussi, les mille chemins, ouais.
Ah, les mille chemins. Et ensuite, alors, qu'est-ce que t'as encore fait qu'on ne sait pas
que les gens ne sauraient pas. Bon, après, j'ai fait... donc, j'ai encore roulé toujours en trial un petit peu. Mais surtout le motocross. Donc, je suis parti plus quelques années vraiment à fond dans le championnat des Flandres. Après, j'ai donc participé au moins 4-5 ans au championnat des Flandres. J'ai fait aussi, en parallèle à ça, mon premier stage avec Jean-Jacques Bruneau.
Ah
hein,
oui,
à
c'est
Ebbe.
Vrai. Ah ouais. Ouais, ouais.
Et, il nous avait bien formés pendant 3-4 jours. Hein. Voilà, les virages, comment manipuler les freinages dans les descentes, les dévers, enfin voilà, un très bon stage qui nous a bien mis en route vers le motocross, toutes nos victoires qu'on a réussi, que j'ai réussi à gagner en même temps, c'est peut-être au départ à ça, puis aussi à l'entraînement.
Alors justement, à l'époque, il n'y avait pas tous ces stages, dans les années 70, par là, il n'y avait pas tous ces stages, on prenait une moto, puis on essayait de faire le mieux possible.
Ah oui, donc avant que ce soit le stage, j'ai fait dans les années, j'avais 14 ans environ, hein, mais en 74, quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'avant, on fonçait à travers tout, quoi.
Ouais.
Hein, on roulait, on tapait les motos, enfin voilà, si on, ce qu'on voulait, c'est avoir la première place, finir premier.
Oui, c'est aussi
c'est le but. Hein,
c'est le but aussi. Hein. Bon. Oui, voilà.
Mais les gosses, c'est pareil, les gosses voulaient aussi la place, donc... c'était convivial. À la fin de la course, on se parlait, on allait discuter.
J'allais
discuter avec les copains. C'était tous des copains. Voilà.
Qu'est-ce que tu penses, Corinne, du sport maintenant, actuellement, avec le championnat féminin, avec Livia Lancelot, hein, qui est terminé.
Pour les filles, c'est magnifique, un championnat entre femmes, je pense.
Est-ce que tu crois que ça a bien évolué dans le bon sens?
Ouais, peut-être. Enfin, les motos un peu trop vite, je pense. Les motocross ont évolué un peu trop vite, quoi. Avec une moto bien préparée, on peut faire des choses. Quand on voit maintenant au supercross et tous les sauts qu'ils font actuellement les pilotes.
Ça t'impressionne ou ça te...
Ça m'impressionne énormément. Et j'ai loupé très peu de supercross d'ailleurs, si bien à Lille qu'à Paris, j'en ai loupé très peu. Mais je rêvais pas à réaliser ce qu'ils font maintenant, les figures qu'ils font actuellement. C'était impossible avec nos machines à nous d'époque.
Toi qui es de la partie, forcément, avec tout ce que tu as fait, tu te dis que maintenant, actuellement, ce qu'ils font, c'est quand même assez impressionnant.
C'est impressionnant, hein. Ça fait peur. Hein.
T'as jamais fait de freestyle, tu sais, les doubles.
Non, je pilotais très bien sur en wheeling, roue arrière.
De la mort à ça, il n'y a pas le droit.
Ou alors, si elle l'a fait, elle n'a pas voulu.
Ouais.
Je savais, j'avais à l'époque, on roulait dans Merville, on faisait aussi, quand on se reparlait au trial, je savais traverser quasiment toute une rue de Merville sur la roue arrière. Hein.
Ah ouais,
la rue des prêtres de Merville, je savais la faire sur toute la roue arrière. Hein.
Ah ouais.
Bon, oui. Bah écoute, voilà, on passe à un morceau de musique, Guy. On est scotché, à chaque intervention, on est scotché.
On va souffler un coup.
On va souffler, ouais. Bon Guy, Corinne reste avec nous parce qu'elle a plein de choses à dire. C'est incroyable tout ce, que, tout ce qu'elle a fait dans, durant sa carrière.
Elle devrait revenir dimanche prochain.
Ah oui, dimanche prochain,
on
n'aura pas beaucoup de temps. Voilà, mais tu voudrais parler du Honda Moro Memory.
Oui, alors Honda Moro Memory, ça vient, c'est son épouse Marianne Moro qui organise ça chaque année. Michel Moro est décédé il y a quelque temps. C'était un concessionnaire dans la région de Bordeaux qui mettait à disposition des motos de cross à des jeunes pilotes, mais des jeunes pilotes qui ont monté en flèche, comme Jean-Michel Bell, Patrick Boniface, Patrick Fura. Enfin, alors chaque année, elle réunit. Alors une fois, c'est du côté de Bordeaux, une fois dans le Tarn. Là, c'était dans la région de Troyes, à Bar-sur-Seine. Il y avait quand même 50 pilotes, hein, tu vois.
Alors, et des pointures aussi.
Et des pointures, oui, en effet. Par exemple, il y avait aussi Daniel Péan, c'était le premier pilote français qui avait remporté un grand prix de motocross. Et pour la petite histoire, elle a des sponsors, bien sûr, hein, parce que pour organiser des choses comme ça. Et figure-toi que le principal sponsor de la Honda Moro Memory, c'est Yamaha.
C'est curieux.
Ouais, c'est curieux, ouais. Donc, au prochain Honda Amour Memory qui va se dérouler dans la Creuse, il va avoir une épreuve pour les Yamaha aussi, pour récompenser Eric De Seyne, oui, qui donne carte blanche à Marianne Moreau. Donc, Marianne Moreau, j'ai fait une petite interview à Bar-sur-Seine, qu'on va écouter maintenant. Alors, je suis ici à Bar-sur-Seine avec Marianne Moreau, qui organise le Memory Moreau. Alors, voilà, après Arbis, Saint-Anne-en-Jaillard, Saint-Jean-d'Angély, et La Guépie, Bar-sur-Seine.
Oui, Bar-sur-Seine, effectivement, c'est le quatrième rendez-vous. Je voulais faire l'impasse d'une année et me projeter en 2018, voilà, à Brou, à Ain, ce sera bientôt défini. Et des fans et des pilotes m'ont dit, Marianne, il faut faire quelque chose. Et quand j'ai vu qu'il y avait ces nations classiques, je me suis dit, pourquoi pas faire ce memory au sein des nations classiques, plus modestement, mais le faire quand même. Et effectivement, c'est une bonne idée parce que tout le monde a répondu présent. Il y aura bien 40 pilotes au départ du memory tout Honda cet après-midi. Forcément, ça peut se faire qu'avec les partenaires, on le sait, hein, toujours les mêmes. 100%, BIR, cette année Ippon s'est greffé, et toujours Yamaha, c'est extraordinaire, mais le Memory Honda Moreau pour sponsor Yamaha et pas Honda. Voilà, c'est comme ça.
Et parce que pour une fois, c'était ici, presque dans le nord de la France. Oui. Souvent, ça se passait là-bas dans le sud. Et pour les nordistes...
Oui, effectivement, tout le monde me disait, Marianne, tu restes toujours autour de ton Bordeaux, de ton Aquitaine, mais bon, c'est vrai qu'on est resté là des années et qu'il y avait de la demande là. Voilà, puis quand la demande s'est faite fort sentir par Brou, par Ahun, voilà, par la Vendée aussi, et j'en passe, mais maintenant on est parti sur la route en France, là où on voudra de nous. Voilà, on demande que ça, qu'on nous sollicite et on sera du rendez-vous, le temps qu'on a la force, le courage.
Un circuit mythique, c'est aussi dans le nord, Cassel, mais ça fait un peu loin.
Oui, là, ça fait vraiment loin. Oui, Cassel, j'y suis allée 4 ou 5 fois dans les années 80, et Michel, bien sûr. On avait la finale d'un 125 Inter, je crois, en 84, peut-être, par là. Et voilà. Mais ça fait quand même trop loin. Voilà, comme je dis, le bout du nord et le bout du sud, j'éviterai.
Et est-ce qu'il y a par exemple des pilotes de renom qui sont présents ici?
Alors cette année moins que l'an dernier où La Guépie, vraiment, c'était énorme en pilotes de renom. Donc cette année on est resté plus modeste parce que c'est vraiment les nations classiques qui sont en avant avec 12 pays et des pilotes champions de chaque pays en vétérans. Voilà. Mais question pointure, on a tapé un peu français avec Patrick Furat, avec Patrick Demaria, avec Daniel Péan. Des valeurs sûres bien sûr d'autrefois et qui sont ici très attendues par les fans et le public et en étranger on attend normalement Marc Velkiners, qui est arrivé parce que je ne l'ai pas encore vu. Marc Velkiners qui faisait les Grands Prix 125, qui était pilote usine dans les années 80.
C'est ça, oui.
Voilà. Et puis d'autres qui ne me viennent pas comme ça immédiatement.
Est-ce que tu voulais aussi inviter
Ludovic Luquin avec le team Luquin, avec Germain Vincenot, qui est champion de France Supermotard 2016, et Ludo Luquin, qu'on ne présente plus, ancien pilote Honda Moreau, qui jusque-là n'avait pas réussi à se rendre disponible pour un rendez-vous mémoré. Il aura fallu le quatrième pour que Ludo nous rejoigne, son papa et sa maman.
Je sais que tu voulais inviter aussi Henri Everst.
Oui, Harry devait venir comme Strybos, mais tout d'un coup, ce Grand Prix de Suède le 20 août nous a enlevé ces pilotes-là.
Oui, vrai,
voilà.
Vrai.
Donc vraiment, Harry Everts et Dave étaient engagés, m'avaient dit, Marianne, tu peux compter sur nous. Mais quand ils ont eu le calendrier des Grands Prix, aussitôt, ils m'ont dit, c'est pas possible.
Hein.
Ils vont au Grand Prix, ces gens-là, parce qu'ils ont, soit ils sont managers, soit comme Strybos, son fils roule, enfin voilà.
Ouais, voilà. Et peut-être l'année prochaine, une cinquième édition, non?
Oui, absolument, certainement. Sur l'année prochaine, on a un grand regard et une grosse attente d'Ahun dans la Creuse qui nous sollicite vraiment fort. Voilà. Et là, on peut effectivement refaire un rendez-vous international, donc reproduire les nations, le Memory Honda Moreau à fond. Et je pense que cette fois, on va rajouter une épreuve Yamaha avec des YZ parce qu'on a ce soutien d'Eric De Seine de chez Yamaha qui est très fort.
Et ben, Marianne, on te remercie de ce mini interview.
Guy, je propose de revenir avec Corinne, une fille de fer. Voilà, est-ce que tu connais le salon Motolégende ?
Eh ben oui, ça fait 2 ans que je suis au Caïman avec le
Et tu vas en bus ? Tu pars en bus avec eux ?
On part en bus avec eux, oui, avec le président, 4000. Hein.
Oui, 4000, ouais.
Bonjour Alain.
Alain Delphi, bien sûr. Et donc on va là-bas à Paris, très beau salon avec les motos d'époque.
Alors, hein. Ça va t'intéresser cette année parce que tu sais, le thème c'est la moto tout terrain. Hein.
Ah, en effet, cette année, ouais, c'était Yamaha, je crois.
C'est Yamaha, oui. Ouais. Oui, avec la vedette, ce sera Adrien Van Beveren, hein, qui va signer les autographes durant tout le week-end.
Un petit mot.
3 jours, hein, attention.
Un petit mot sur Adrien. Figure-toi qu'Adrien, je devais l'avoir au téléphone à cette émission. Adrien a eu la politesse de me rappeler parce qu'il était à Dubaï.
Alors là, Adrien, hein, chapeau.
Alors que quelquefois, il y a des pilotes régionaux que j'appelle.
Oui, ils ne t'appellent pas, Guy.
Qui ne me répondent pas.
Un vieux motard comme toi, quand même.
Voilà.
Voilà, donc on va avoir l'occasion de voir la j'ai eu le programme, hein, la 500 XT de Jean-Claude Olivier, hein, où il a fait le Dakar en 78.
C'est ça, ouais.
Je crois que la première moto qui a gagné le Dakar, c'était une 500 XT. Hein.
Ouais, c'était Neveu, je crois.
Cyril Neveu, peut-être.
Ah, Cyril Neveu.
Est-ce,
voilà.
Est-ce que Corinne, ça t'a jamais tenté, ça, de faire du rallye comme ça, des trucs sur deux semaines?
Alors, le Dakar, non, j'ai jamais.
Là, tu fais du circuit, bon, ça dure. C'est ici, dans la région, pas plus ou moins, mais là tu pars à l'étranger.
Non, le Dakar, j'ai jamais fait. J'ai failli partir il y a quelques années. Je vais rouler peut-être à l'époque pour Michelin, mais bon, ça s'est pas fait. Et donc, le Dakar, non, c'était déjà un gros budget à l'époque, et puis je travaillais chez mon père, donc je n'ai pas pu partir. Grand regret. Dans ma carrière motocycliste, c'est un de mes grands regrets. Plus grand regret, oui.
Justement, tu parles de Michelin. Est-ce qu'on on t'a pas repéré? Il n'y a pas des marques d'huile, de pneus, des pneumatiques?
Aucune.
Voilà. C'était difficile aussi le motocross à l'époque. Hein, c'était pas aussi médiatique que maintenant.
Oui. Le seul sponsor que j'ai eu, c'était mon père. Et c'est vrai que de temps en temps, nous offrait des autocollants, des maillots, mais au niveau avoir les gros sponsoring pour courir, non. Malheureusement.
Oui, parce que tout à l'heure, on parlait un petit peu de ton époque et de maintenant. Tu trouves que ça a changé. Maintenant, c'est des grands mobilhommes.
Oui, donc dis-nous, les camping-cars.
Des camping-cars.
Nous, on avait le vieux fourgon, la petite caravane.
Toi, c'était la caravane. Toujours très sympa, on
dormait à 10 ou 15 dedans. Dans une 4 places, mais avec quelques tentes autour, bien sûr. Mais non, mais je vois maintenant que c'est beaucoup. Chacun a son camping-car. C'est le
alors
gros,
justement,
c'est
les pilotes sont isolés. Quoi. Ils ne se parlent plus. Voilà. Ils sont tous dans leur camping-car,
c'était convivial, on allait boire un coup ensemble.
Une fois que la course, les essais sont terminés, ils rentrent dans leur camping-car, ils ressortent quand c'est le moment de la course.
Exactement.
Bon, on les voit plus d'ailleurs, même les spectateurs ne les voient même plus, on peut même pas leur demander
on ne sait pas avoir un autographe malheureusement. C'est dommage, bon encore certains pilotes comme Adrien Van Beveren, lui il est abordable, on sait avoir un autographe, on sait discuter avec bien sûr, et d'autres, hein, le fils Potissek, on savait, ou Milko aussi également, on peut lui parler. Hein. Vous allez aux entraînements à Lone Plage, vous les voyez, on peut discuter avec, et pourquoi pas un autographe si le gamin qui en a envie, quoi, bien sûr.
Mais c'est important pour les jeunes, justement. Hein. Un jeune qui serre la main à Adrien Van Beveren, ça lui donne l'envie
de faire du motocross.
De motocross.
Bien sûr.
Voilà.
Donc, mais c'est pas fini. Parce qu'après, les deux roues, c'est le 4 roues, Corinne, qui... Elle a fait un raid au Maroc, c'était un raid humanitaire, il y a quelque temps. Et dernièrement, une course de buggy avec un Yamaha de 1000 cm3, hein, quand même. Vous étiez trois, je crois.
Ah, oui.
Et ça a duré 24 heures, c'est ça, hein.
Oui, donc avant le raid, c'est vrai, on est parti, on a fait un raid de... à Fontaine-Fourche, en Seine-et-Marne. Et donc, j'ai été contactée par Alexia Diers, hein, la nièce d'Hervé Diers, et avec une concession de Saint-Omer qui nous ont prêté un Miglia Buggy. Et on a fait donc ce 24 heures tout-terrain, championnat de France, une course du championnat de France, des 24 heures tout-terrain. Bon, je veux dire que c'était très, très physique, mais un truc inoubliable. J'ai dit, est-ce que je vais y arriver? Je me voyais pas prête, la condition physique, mais quelque part, bon, j'ai pris sur moi-même et ça a été. Et on a fait une très très belle place. Donc, disons, la nuit c'était fatigant. Il y avait quand même, on n'avait pas de pare-brise, on n'avait pas de porte. Il y a eu la pluie, le vent, il y avait tout ça. Mais ma foi, avec de la
niac.
Agnac, bien sûr. Moi, j'ai pas dormi pendant quatre jours, j'ai pas dormi. Et on a réussi à finir 34e sur 75 équipages.
70. D'accord. Ouais. Et il y avait des bons pilotes, hein, tu m'avais cité, je sais plus qui.
Oui, mais il y avait les pilotes de Shimano, les pilotes officiels de Shimano, hein, quand même. Hein.
Ah, d'accord.
Il y avait des gros pilotes, même voitures, hein. Parce que c'était tout des grosses voitures, de style voiture du Dakar. Et nous, il y avait quelques buggies, entre autres le nôtre, un SXV 1000. Là.
Et à cette course, tu avais aussi collecté 100 euros par heure.
Oui.
pour une cause.
Exactement. Donc, on avait chaque heure roulée, c'était au profit du cancer du sein, et chaque heure roulée nous amenait 100 euros. Donc, on a su finir la course. Et on a donc amené 2400 euros à une association de Saint-Omer. Je sais plus le nom, Rose. Enfin, bref, sur Saint-Omer pour le cancer du sein.
D'accord.
Donc, je pense que c'est un beau geste. Et moi, en tant que femme, eh ben, on est mis à contribution.
D'accord. Hein,
et je pense que c'était beau de finir, quoi, déjà.
Et au niveau, en 30 ans de carrière à peu près, de tes débuts, quel est la meilleure, ton meilleur souvenir en course ou...
Bon, en course, je pense que les meilleurs souvenirs, c'était quand on roulait sur l'ancien terrain de Cassel, le grand terrain de Rudy Poutsec à Cassel, où là, on avait des sensations. Il y avait des grandes, grandes descentes de 20 mètres de long. Il y avait des très, très hautes, très, très grandes montées. Cassel, ou les terrains des frères Barbara, à Air sur la Lys. Et là, c'était très, très impressionnant pour le public, mais très dangereux pour nous aussi, quoi. Et là, j'ai des souvenirs extraordinaires, quoi. Je pense que c'est les plus beaux terrains de la région à l'époque, hein.
Cassel, ouais, si. Parce qu'il y a eu plusieurs championnats du monde, d'ailleurs,
oui,
à Cassel.
Dont j'ai participé, mais en course annexe, moi, bien sûr.
Ah,
hein,
d'accord. Okay.
En course annexe.
Hein. Voilà.
Du speedway, Corinne, est-ce que tu en as fait?
Jamais, non, je connais du tout, je connais pas le speedway.
Eh ben, Guy va nous en parler.
D'accord, on l'écoute alors, merci.
Alors, oui, alors, oui, c'est à moi. Non, parce que j'écoutais religieusement.
On n'a plus de temps pour passer un morceau de musique.
J'écoutais religieusement Corinne. Oui, hein. Ouais, alors le speedway, bon, la dernière manche s'est disputée en Australie, pardon. J'allais dire en Autriche, mais c'est en Australie. Alors le speedway, je rappelle, il y a 12 épreuves. Il y a 15 pilotes par épreuve, dont un pilote invité. La piste, c'est une piste ovale. Ils partent à 4 pilotes, simplement, dans le sens inverse d'une montre. Hein. Et une manche dure 60 secondes.
C'est un peu comme la glace. Hein.
Oui, pareil, oui. Donc, un pilote roule 5 minutes. Il peut être champion du monde en bout de 5 minutes, enfin pas en bout de 5 minutes. Donc cette année, il y a eu 37 pilotes qui ont inscrit des points. Les 8 premiers qualifiés sont qualifiés d'office pour l'année suivante. Par contre, il y a eu quand même 4 blessés assez conséquents, et pas des moindres, des anciens champions du monde, comme le Danois Nicky Petersen qui s'est blessé au cou. Greg Hancock, enfin lui, il a chuté de ses escaliers chez lui.
Ah oui, c'est pas pareil. Hein.
Non, c'est pas pareil, mais il s'est cassé l'épaule, oui. Donc voilà. Ensuite, il y a un Suédois, Frédéric Lindgren. Alors là, c'est des vertèbres, bon, tu vois. Mais je crois, quand on voit des courses de speedway, il y a souvent des chutes. Et bon, il faut pas oublier que sur les motos, il n'y a pas de frein. Donc, on roule sur le concurrent.
Ah oui. Hein.
Donc,
Y a Corinne qui est étonnée là. Mais oui, mais en speedway c'est ça. Hein.
Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de frein.
Non.
Merci Guy de nous apprendre ça.
Ah, tu vois.
Toi, on apprend tout âge, hein, Corinne.
Toi, t'avais des freins sur ta moto. Hein.
Oui, j'avais quand même du frein, ouais.
Ouais, mais toi, tu tournais plus la poignée que freiner, non?
J'essayais quand même de tourner plus la poignée, forcément. Ouais.
Alors rapidement, alors les 8 premiers, c'est un Australien, Johnson Doll, qui remporte l'édition 2017, devant un Polonais, Patrick Dudek, et un Anglais, Ty Wolfinden. Il faut savoir qu'il y a quand même dans les 8 premiers, 3 Polonais, parce que c'est un sport national, là-bas en Pologne, et, ou en Australie et en Suède.
Hein, et très populaire.
Et très populaire. Il y a des courses aussi en France, du côté de Mâcon, mais c'est des courses... C'est des championnats d'Europe, mais bon, ça n'a pas la même intensité que les championnats du monde, quoi, tu vois. Voilà, ben pour le speedway, rendez-vous l'année prochaine.
Très bien. Je rappelle aussi pour le calendrier des motoclubs 2018, inscrivez gratuitement vos manifestations dans le calendrier. C'est simple, vous allez sur la boîte mail k1c@orange.fr. Corinne, les projets? Je suppose que tu dois encore avoir plein de projets.
Oui, les projets, ben, j'espère l'an prochain remettre les 24 heures tout terrain à Fontaine-Fourche, là, pour Paris. Pourquoi pas à but pour une association, quoi. Et en même temps, bon, faut juste l'entraînement. J'essaierai de m'entraîner un peu plus, quoi. Parce que là, j'avais pas eu le temps de m'entraîner avec ce buggy 1000 cm3.
Et en plus, elle fait du... Elle roule en BMW, en moto BMW, une RGS. C'est ça. Une...
J'ai
encore un 11 BMW, une moto de route, qui me permet de temps le dimanche quand j'ai un peu de temps d'aller
faire une balade.
Pardon?
D'aller faire une balade.
Ouais, faire une petite balade, aller ce qu'on voit, pourquoi pas boire une chope.
Aller à Bosquep, au moulin de Bosquep.
Par exemple.
Voilà. Elle m'a promis de venir à la prochaine balade qu'on organise.
Bon, très bien. Bien, écoute, enchanté, bien sûr. Bon, je rappelle aujourd'hui, c'est la grande finale aussi, hein. Oui. Mais c'est la piste, je ne sais pas si tu suivais un peu, ça t'intéresse un peu la piste?
Oui,
la vitesse sur circuit?
Je ne suivais pas trop quand même, mais actuellement...
C'est pas la même discipline que le motocross, hein,
d'accord.
Mais bon, en moto 3, moto 2, c'est torché, on connaît déjà les champions du monde 2017. Par contre, il y a encore une petite incertitude en moto GP, Guy, hein, entre notre ami Marquez et notre Dovizioso, là, Ducati, entre Honda et Ducati.
S'il y a des chutes, s'il y a des chutes.
Alors tu parles de qui, Laurent?
Le chute. Marquez.
Parce que bon, c'est mal barré pour Dovi, hein, parce que bon, Marquez il a fait la pole, et il va partir en première position, en première ligne et première position. Dovi il a fait 9e, donc 3e ligne. C'est pas bon pour lui, donc il faudrait que il a, je sais plus combien, il avait un point de retard. Dovi, il faudrait que Marquez, alors qu'il casse le moteur, qu'il chute ou qu'il finisse 11e, je crois, j'ai calculé à peu près.
D'accord.
C'est peu probable, connaissant le gaillard quand même.
Mais s'il chute sans blessure, hein,
oui, bien sûr,
glisse.
Ah, bien, oui, glisse, ouais, et ouais. Tout. Voilà. Quoi, hein, voilà. Non, mais j'expose les éventualités que pourrait. Et à ce moment-là, Dovizioso pourrait remporter, Ducati pourrait remporter donc la couronne 2017 et devenir champion du monde.
Voilà. On va rester sur Zarco plus, hein.
Par contre, je voudrais parler de notre pilote national, Johann Zarco. Je ne sais pas si tu connais, Corinne. Tu suis
pas, non, je connais. Je suis pas la vitesse.
Alors là, pour la première année MotoGP, alors. C'est incroyable. Là, donc dimanche prochain, de toute façon, on fait un débriefing de cette saison 2017. Hein, mais on n'en revient pas que ce pilote, pour cette première année, il est sur un team satellite. Hein, c'est pas la moto officielle, hein, Yamaha. Hein, voilà. Donc, en fait, si vous voulez voir ce Grand Prix 14h, hein, je rappelle tout à l'heure 14h, vous pouvez aller au Zen sur grand écran. Il y aura du monde là-bas. Et on sera entre nous, entre motards. Voilà, et on pourra commenter. Il y en a qui tiennent pour Marquez, il y en a qui tiennent pour Rossi, il y en a qui tiennent pour Zarco, il y en a qui tiennent pour Dovi, pour Ducat, pour Yamaha, pour
Suzuki. Pour lui, c'est plié un peu quand même.
Ouais, pour lui, c'est plié. Voilà. Et tout ça se passera dans la bonne entente. Et puis après le Grand Prix, on boira des chopines. Voilà. L'émission se termine.
Et même pendant, je crois.
Et même pendant. C'est au Zen, on casse le clin dans le pôle moto. Là, Guy, merci pour cette émission. Trouver Corinne. Alors, encore, je reste encore stupéfait de tout ce que tu as fait là.
Surtout du mur de la mort.
Le mur de la mort. Alors, à 12 ans, ta communion, ton père qui t'offre un mur de la mort, je reviens pas.
Je pense que c'est un cadeau qui sortait de l'ordinaire. Merci à vous, merci à la Radio Campus, hein, de m'avoir invité. Et puis bon dimanche à tout le monde.
Très bien. Bon dimanche. Merci Laurent.
À la semaine prochaine.